C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Donc, pendant cette campagne électorale au fédéral, on voit que les manifestants accompagnent les chefs, sont présents, particulièrement le premier ministre Trudeau qui a dû annuler en Ontario une activité en fin de semaine parce que, donc, la menace était réelle. Là, ce qu'on va vivre avec ça jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'au 20 septembre, parce que c'est normal, parce qu'on doit tolérer ça, même en démocratie. Luc?
Non, bien sûr que non. Puis M. Trudeau a déclaré, puis je cite, « Je n'avais jamais vu un tel niveau de violence. » Puis c'est arrivé en Ontario, on se rappelle que les Ontariens, quand même les Canadiens du centre du pays, avec une réputation de politesse, une réputation de gentillesse, la politique canadienne quasiment jugée plate pendant des années parce que des gens ne s'affrontaient pas. Et là, on a un événement comme celui-là. Évidemment que c'est un petit groupe, mais... la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ce groupe-là va contaminer? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur? On a vu que les Républicains aux États-Unis, un parti, le vieux, the Great Old Party, qui se modifie, qui se transforme. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France, avec un mouvement qui se radicalise puis qui va toucher des millions de personnes. Est-ce que c'est une tendance? Et première question, puis deuxième question, est-ce que ça va générer de la violence, de la vraie violence, coup de feu, etc.? Moi, je pense qu'à la deuxième question, la réponse est oui. Donc, parce que lorsque tu as un groupe de gens hyper fâchés, ça déclenche quelqu'un qui est tout seul dans son sous-sol, un capitaine Lortie quelque part, un caporal Lortie quelque part, ou quelqu'un qui est tout seul dans son sous-sol, puis qui se dit... c'est assez. Moi, je l'ai, la solution. Moi, je vais y aller, puis ça va, je vais le régler, moi, le problème. Puis, il y a des cas comme ça. Il y a des cas psychiatriques. Puis, tu sais, on le voit aux États-Unis aussi, lorsqu'il y a une tuerie, ça entraîne une autre tuerie.
Mais l'assaut au Capitole est,
ben oui, c'est
assez
ça.
Clair.
Non, donc, ça, c'est comme l'espèce de, comment dire, de sommet, là, en termes de violence qu'on a atteint, l'assaut du Capitole. Oui. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, que tu permets, est-ce que c'est une tendance? Moi, je pense que oui, c'est une
tendance. Préciser. Moi, je suis sûr que ça va contaminer des gens malades. Mais je ne crois pas que c'est une tendance forte au Québec.
Au Québec, OK. Mais dans cette campagne-ci, moi, je pense que... Puis il y a eu plusieurs manifestations anti-mesures sanitaires, les anti-vax, comme on appelle. Est-ce que c'est une tendance? Moi, je pense que oui. Ils sont 10-15% de la population. Oui, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait énormément de bruit. Il faut s'en inquiéter parce que moi, ce qui m'a choqué dans l'événement de Bolton, c'est que le premier ministre, en passant là, il n'est pas seulement chef de parti, il est aussi premier ministre. Mmh. Il incarne une institution. Alors qu'il soit obligé, parce qu'il sent sa sécurité menacée et celle des manifestants en danger, qu'il soit obligé d'annuler un événement, moi, je me dis non. Là, on vient de franchir une ligne qui ne peut pas être acceptable parce que c'est pas vrai qu'une minorité peut nous prendre en otage, peut prendre en otage la démocratie. C'est parce que c'est un exercice hautement démocratique, une élection. On peut pas tolérer ça. Ça n'a pas de bon sens. Parce que j'insiste sur le fait que Justin Trudeau n'est pas seulement un candidat. Il incarne une institution importante dans notre société, dans notre démocratie, et des manifestants qui s'en prennent à Justin Trudeau s'en prennent aussi à nos institutions. Et lorsqu'on s'en prend à nos institutions et qu'on remet en question la pertinence ou les décisions de nos institutions, la pertinence de nos institutions, là, je pense qu'on commence à avoir un méchant problème comme société. Alors, moi, je dis, et puis moi, en passant, ce qui m'a choqué aussi, c'est non seulement les mots qui ont été scandés à Justin Trudeau. Vous avez tous vu l'image de Trudeau à la potence. Mais c'est des parents avec les bébés. Avez-vous vu? Moi, je me dis, mais voyons donc, si tu veux traumatiser ton enfant, là. Non, mais ça n'a pas de sens, Luc. Écoute.
Non, mais regarde, moi, je le prends là où tu viens de le laisser, là. C'est-à-dire que on a vu une foule, on a vu cette foule-là. Il y avait des parents, il y avait des bébés, il y avait des mères de famille avec les deux doigts dans les deux majeurs dans les airs qui hurlaient avec le visage déformé par la colère. Mais les manifestations, style Capitole, où t'as des gars armés avec des lunettes noires puis qui se prennent pour des soldats en Afghanistan, c'est quand même une autre affaire. Puis la troisième affaire, c'est que il y a des manifestations qui sont entre les deux. Puis parce que la résistance, la manifestation, l'opposition, c'est un magma, c'est un groupe qui bouge. Il y a des gens qui abandonnent ce groupe-là, il y a des gens qui rejoignent ce groupe-là. Il évolue avec le temps. Regarde, au début t'as des gens qui disent non au vaccin. Là-dedans, t'as des personnes qui veulent pas le vaccin parce qu'ils ont des craintes contre le vaccin, ils ont des craintes médicales. Et dans leur propre vie, ils refusent de manger tout ce qui est pas biologique.
Qui ne s'expriment pas par la violence.
Exactement. Là, ils rejoignent le groupe. À un moment donné, ils voient une affiche avec un premier ministre pendu, ils quittent le groupe. Ils disent non, moi, ce groupe-là, non, c'est pas mon groupe. Par contre, dans ce même groupe-là, là, il y a des gens qui disent l'État est totalitaire, faut se libérer de l'État. Ah, il y a des gens qui rejoignent le groupe. Il y a des gens que c'est ce message-là qui les intéresse. C'est pas le vaccin, c'est ce message-là qui les intéresse. Fait que le groupe, il bouge. Qu'est-ce qui fait qu'il va contaminer des milliers et des millions
de
personnes?
J'ai une question pour relancer le, oui. Qu'est-ce qu'on fait des chefs de parti, Maxime Bernier, Éric Duhaime, qui surfent avec un certain courant, puis je dirais les nourrit un peu doucement?
Ouais, ben j'allais pour dire, ce qui m'a rassuré dans la réaction des 5 chefs de parti, et incluant Justin Trudeau, qui a dit 2 choses. Hein. Je n'ai jamais vu ce niveau de colère, mais il a aussi pris soin d'ajouter, je ne reculerai pas. Bravo à Justin Trudeau. Tous les chefs de parti ont condamné cette violence parce qu'ils savent très bien qu'ils pourraient être eux-mêmes la cible de ces manifestants qui sont complètement fous.
Non, mais Maxime Bernier donne de l'eau au moulin.
Oui, mais Maxime Bernier, Paul l'a dit en fin de semaine, Il est pour le droit de parole, mais il dit il faut que ça, les gens puissent s'exprimer dans un cadre pacifique. Mais tu as tout à fait raison. En fait, ils surfent pas mal. Oui,
non?
Et ça, c'est sûr que ça contribue à, comment dire, alimenter la bête. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on est en démocratie. Moi, je suis pour la liberté de parole, la liberté d'expression. Mais il y a une limite à cette capacité qu'on a comme société de s'exprimer. Et en fin de semaine, selon moi, la ligne a été franchie et c'est cette ligne-là qu'on doit, c'est ce genre d'attitude-là qu'on doit condamner, qu'on ne doit plus tolérer. Tu sais, qu'on s'exprime pacifiquement.
Oui,
parfait.
Mais Nathalie, si toi, nous, on la condamne tous les trois au studio, oui. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer sur les médias sociaux. Ça va aller. Mettons qu'Éric Duhaime prend un calmant, là, puis il se dit, OK, c'est pas avec des gens comme ça que je vais être élu. Puis il ajuste son discours. Puis il ne parle plus à ces gens.
C'est une arme à double tranchant pour Éric Duhaime, je te l'ai dit, parce que ça pourrait se retourner contre lui. C'est sûr que, tu sais, excuse-moi, là, tu construis pas un discours politique sensé en surfant sur la colère des citoyens. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, c'est quoi ton projet de société, Éric Duhaime? Mm-hmm. C'est quoi ton projet de société, Maxime Bernier? Puis là, savez-vous ce qu'ils vont entendre comme réponse? Bruit de criquet, il n'y aura rien. Il n'y en aura pas de réponse parce qu'ils n'en ont pas de plan. Alors, quelque part, est-ce que c'est irresponsable que ces chefs de parti fassent du millage comme ils en font sur la colère des gens? Absolument, parce que ça prend plus que ça pour faire avancer une société.
Mais moi je suis persuadé qu'ils vont le réaliser tous les deux, là, Maxime Bernier et Yves Duhaime. S'ils ne le réalisent pas, ils vont se marginaliser, puis tant pis pour eux. Ils vont aller rejoindre bien du monde dans la grande poubelle de l'histoire. Mais il reste que ce mouvement-là va rester. Qu'est-ce qui fait que le mouvement augmente ou diminue? C'est pas, bon, c'est les médias sociaux, bien entendu, mais je pense que c'est le dérèglement de la société. Quand, ils ont l'impression que rien ne fonctionne, que l'État nuit, qu'il n'y a rien qui marche. Dans plein de domaines, il n'y a rien qui marche. Que ce soit la congestion, le logement, les revenus, leur revenu personnel, la capacité d'entreprendre des choses, etc. Il n'y a rien qui marche. Ils vont se radicaliser. Dans une société où ça marche, ça fonctionne, les systèmes, les institutions fonctionnent, ce mouvement-là, il ne prendra pas d'ampleur. Pourquoi ça a marché en France, les gilets jaunes? À cause du coût de la vie, à cause du chômage, à cause de la marginalisation. Pourquoi ça marche aux États-Unis? Ben, regarde, au Missouri, il y a 28% des gens qui sont vaccinés.
Ouais.
Hier, je regardais Kensington Street, un vidéo de Kensington Street à Philadelphie. Des zombies. La crise du crack, la crise du fentanyl, la crise du logement. Et à un moment donné, c'est que la résistance de la société, elle vient pas juste des médias, elle vient pas juste de ce qu'on dit de bien ou de ce qu'on dit pas bien, elle vient de la capacité des institutions à soutenir.
Oui, tout à fait. Mais Éric Duhaime, il va faire du millage. Je vous le dis, sur le plan politique, il va faire des gains. Là. À Québec, faut-il le rappeler, il est en deuxième position dans les intentions de vote. C'est sûr qu'il y a un écart important entre la CAQ et Éric Duhaime à Québec. Mais quand tu sais qu'Éric Duhaime, dans les intentions de vote, est en avant est plus fort que le Parti libéral du Québec, qui a déjà été extrêmement présent, parce qu'à une certaine époque, là, il y avait un comté péquiste dans une grande région de la capitale nationale, puis tous les comtés étaient libéraux. Oubliez ça, on est dans un autre
écoute,
monde aujourd'hui.
Moi, là, mon barème, c'est 14 % Il y a 10 ans après la mort d'Elvis Presley, il y avait encore 14 % du monde qui pensait qu'il était vivant. Fait que là, si Éric Duhaime fait 14 %, ça m'inquiète pas. 15 %, ça commence à m'inquiéter.
Pause. Au retour. On va parler un peu de COVID.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, deuxième sujet ce matin, le nombre de cas de COVID augmente, on le voit. Par contre, l'impact sur le réseau de la santé est nettement moindre que des périodes plus intenses qu'on a connues. Par contre, il y a le Delta variant, le variant Delta. Puis on regarde ce qui se passe aux États-Unis. La Floride est dans une situation de crise. C'est 100 000 cas par jour avec des taux de vaccination nettement plus bas. Et si vous vous promenez un peu, moi je l'ai fait depuis quelques jours, pour beaucoup de gens, tu vas dans un centre commercial, c'est comme le retour à la vie normale. Là. C'est-à-dire que les gens, 2 mètres, oublient ça. Le lavage de main, oublie ça. Les succursales de la SAQ n'ont plus les mêmes restrictions qu'avant. Autrement dit, on a beaucoup libéralisé les mesures. L'automne s'en vient, c'est le retour en classe. Alors, est-ce qu'on doit encore plus donner de liberté ou resserrer les mesures? Nathalie.
Où est Jojo Savard?
Oui. Où est-elle?
Où est-elle? Non, mais...
En toi.
Non, mais je me disais hier en préparant la commission, personne n'a de boule de cristal, on s'entend. On essaie de se projeter dans un futur qui n'est pas lointain, qui n'est pas si lointain, mettons, d'ici Noël, à quoi notre vie va ressembler. Personne ne peut trop le dire. Cependant, moi, je pense qu'on va être confronté, on va vivre une espèce de formule hybride, compte tenu, tu l'as dit, de l'évolution du variant Delta. C'est drôle, hein, parce que tu décrivais qu'on a allégé certaines mesures. J'ai pas l'impression qu'on a allégé tant de choses que ça.
Je te jure, écoute,
oui?
Je vais te donner l'exemple, l'épicerie. Il y a, mettons avant l'été, là.
Okay? T'es plus obligé de prendre de panier, c'est ça que tu vas me dire?
Panier, ouais. Laver les mains, il y a quelqu'un à l'accueil. Je suis allé en fin de semaine, personne. Un de mes amis m'écrit, il est allé aux promenades Saint-Bruno. Avant, tu t'attendais des fois à la porte d'un commerce, puis oublie okay, ça.
Ouais,
les
ouais,
gens se promènent, puis ouais. Tout est beau, la vie est belle. Là.
Mais probablement, tout ça s'explique par le fait qu'on est parmi la société au monde qui est la plus vaccinée, pour ne pas dire dans les plus ou la plus vaccinée, un. Deuxièmement, le passeport, l'entrée en vigueur du passeport vaccinal devrait nous donner une certaine, comment dire, nous procurer une certaine sécurité. Puis je me permets un commentaire sur le passeport vaccinal. Là. Est-ce que le gouvernement a l'intention de repousser l'entrée en vigueur du passeport vaccinal compte tenu de toutes les questions qui existent? Tu en as fait mention un peu plus tôt dans ton émission, les personnes âgées, les téléphones Android.
Ce qu'on nous dit ce matin là, pour ce qui est du téléphone Android, là, c'est pas aujourd'hui, puis c'est pas demain. Puis,
alors pourquoi conserver la date du 1er septembre à ce moment-là?
Là, tu peux récupérer ton passeport autrement, là, un PDF. Mais il y a des gens qui n'ont pas la technologie ou qui sont pas capables. Puis là, ça va prendre un envoi par la poste. Mais le temps que ça se rende, tout ça, c'est sûr que c'est un peu plus complexe.
Oui, mais moi, je pense que ça va être un mélange de tout ça. Je serais étonnée, c'est de le dire de manière intuitive, qu'on libéralise davantage par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire, par exemple, l'abandon du masque dans les espaces publics ou, je sais pas, je serais très étonné compte tenu, effectivement, des incertitudes liées au variant Delta.
Moi aussi, je vais essayer de faire une Jojo Savard de moi-même. Et puis moi, je pense que c'est... Je suis très optimiste. Parce que je comprends le discours de la santé publique que de générer de l'inquiétude pour nous dire, attention, là, il y a plusieurs, tu l'as dit, en Floride, il y a pas juste la Floride.
C'est parce qu'il y a le variant puis les comportements. Tu comprends?
Oui,
c'est...
Voilà. Oui. Puis aussi, en Israël, c'est un bon exemple, Israël, parce que l'Israël, ils ont vacciné avant, bien avant, parce que ils avaient le vaccin disponible avant tout le monde. Et là, l'immunité procurée par le vaccin a diminué plus rapidement qu'ailleurs, puisque ça fait plus de temps. Et donc, là-bas, le taux de d'hospitalisation et de mortalité commence à augmenter en parallèle à la courbe d'augmentation des cas. Mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Dans le reste du monde, Danemark, Angleterre, etc., il y a eu une augmentation des cas. Et ça, c'est Francis Veil qui nous ramène dans la presse dans une étude assez précise. Il y a eu une augmentation des cas. Il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Il n'y a pas d'augmentation de l'hospitalisation. Pourquoi? Parce que on le sait, il y a deux catégories, il y a quelques catégories à risque. On a quand même 2 millions de personnes au Québec là qui sont pas vaccinées, hein. C'est pas rien là. Même si c'est 20% là, c'est parce que tu as les 12 ans et moins.
Oui.
Parce que tu as les 12 à 17 ans, c'est pas fort.
Mais 12 ans et moins 17... ça s'en vient là,
oui,
probablement.
Mais, oui, fin d'accord, de l'année, mais début pour 2022. L'instant, tu es 12 ans et moins, 12 à 17 ans, 17 à 35, trois catégories faibles dans la vaccination. Il va y avoir moins de morts parce que ce ne sont pas des personnes âgées. Mais on nous dit, attention, on a des mortalités, des maladies graves chez les enfants. Ce que je pense qui va se passer au Québec, compte tenu de ce qu'on connaît des Québécois, c'est que si c'est ça les catégories à problème, 12 ans et moins, 12 à 17, les parents vont peser sur le piton. Ils laisseront pas, si jamais on se dirige vers un confinement, si jamais on se dirige vers de la mortalité, de l'hospitalisation, il va y avoir une responsabilisation, et là, tout le monde doit se faire vacciner. Moi, je pense ça.
Ouais, là, t'es très optimiste. T'es très, très optimiste.
Oui.
Parce qu'il y a un noyau dur de quoi? 5-10 % de gens qui ne se feront jamais vacciner, soit par conviction religieuse ou politique.
Quand les classes vont fermer,
trop.
Là, dans les classes, quand les classes vont fermer, là, ça va être, moi, parce je pense qu'il va rester 5 % de gens qui voudront, seront pas vaccinés.
Oui.
Mais les gens qui ont juste fait preuve de nonchalance, mettons, ou de report, ou de, ben, c'est pas si grave que ça, les enfants sont jamais malades, eux autres vont se précipiter.
Mais, ouais, ben comme en France en fait, lorsqu'il y a eu l'annonce du passeport vaccinal, mais au Québec, est-ce qu'on s'est précipité à l'annonce du passeport vaccinal pour se faire vacciner?
Il y en a un certain, je pourrais pas dire combien, mais il y en a beaucoup des jeunes notamment,
oui,
qui veulent faire un sport d'équipe puis qui se sont fait dire tu veux jouer avec ton équipe,
ben
ça te prend le passeport.
Voilà. Puis en parlant de passeport vaccinal, tu citais Francis Weiss, samedi un texte fort intéressant où il fait la nomenclature des décisions qu'on a prises dans notre société où on a priorisé le droit collectif ou le bien collectif. Mm-hmm. Sur les droits individuels. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il dit parce que le passeport vaccinal, on a tendance à le voir comme une contrainte ou un emmerdement, tu sais, parce que c'est un, il faut montrer patte blanche. Mais lui, ce qu'il soutient, et puis en fait, il rapporte des propos des d'économistes au Canada qui disent le passeport vaccinal va permettre, par exemple, au Québec, sur le plan économique, de continuer de progresser. Tu vas aller au restaurant plutôt que bouder le restaurant parce que.
Oui, t'as vu, mais pour aller dans ton sens, le chef, l'économiste en chef de la Banque Toronto-Dominion a décidé de décoter les provinces où il n'y aura pas de passeport vaccinal.
Voilà. Alors ça, c'est un incitatif important. L'Ontario va embarquer, le Manitoba a embarqué, le BC probablement s'en vient, mais là, l'Alberta, la Saskatchewan sont résistent, mais ils ont des taux de vaccination plus faibles. Tout ça étant, tout ça pour dire que la situation va continuer d'évoluer, mais il y a des choses intéressantes. En fait, on va continuer de progresser. Je veux dire ça comme ça. Sur le plan de la vaccination, on sait qu'il y a des jeunes, les jeunes de 12 ans et moins vont se faire vacciner. Ça, c'est sûr que ça va arriver, là, compte tenu de l'immunité qu'on souhaite atteindre et du bouclier immunitaire qu'on souhaite atteindre. Mais clairement, on va se reparler du sujet. Ben, et la Jojo Savard en toi va continuer de s'exprimer,
mon cher. La question essentielle, c'est est-ce qu'il va y avoir une augmentation des hospitalisations et des mortalités? Si ça se passe comme en Angleterre, il n'y en aura pas. Si ça se passe comme en Israël, il va en avoir. Mais moi, je pense que dans les deux cas, la société va réagir. Si c'est comme en Angleterre, on va dire, OK, ça va faire, là, la peur de la santé publique qui nous dit, vous devez être vacciné, masqué, distancé, rester à la maison. Mais là, c'est parce que t'es tout seul.
Mais là, tu vois l'Union européenne qui limite les visiteurs des États-Unis malgré la vaccination
tout ça.
Tu le vois ailleurs, là, il y a comme des mesures qu'on connaissait qui reviennent. Là.
Dans les mois qui s'en viennent, on va voir dans quelle direction on s'en va. Mais moi, mon message de ce matin, c'est de dire, si on s'en va du côté dangereux, qui est maladie chez les enfants, donc hausse des hospitalisations chez les enfants, je suis persuadé que les Québécois vont réagir.
Comme dirait le docteur Arruda, si vous me permettez, on va aller à la pause.
C'est 23.